Les orages maléfiques, chapitre 5. Il resta quelques jours dans le bourg. La région ressemblait à un immense chantier recouvert d'une brume épaisse. L'eau ruisselait par toutes les voies possibles, se frayait en chemin, faisant fi des canalisations mises en place par les montagnards. Fatalistes, ils reprenaient leur tâche de fourmis, n'abdiquant jamais. L'homme vouait une grande admiration à ces gens qui œuvrait avec une telle abnégation. Il n'appréciait pas son côté voyeur et l'inutilité de sa présence. Dès que la ligne de chemin de fer serait rétablie, il repartirait pour ailleurs. Sa route incertaine l'emmènerait vers d'autres horizons. Il n'attendait pas de réponse à ses questions. Il cherchait à comprendre le sens de ces orages maléfiques. Il se renseigna à la gare. Les réparations des tronçons endommagés se terminaient. L'employé, qui s'exprimait dans un anglais très approximatif, lui signifia qu'un convoi était attendu d'ici un jour ou deux. Effectivement, la première desserte arriva dès le lendemain. Face à la cohue indescriptible autour de la gare, il jugea plus opportun de patienter deux journées supplémentaires avant de repartir. Il fallait voir l'empressement pour accéder au quai. Certains rongeaient leurs freins depuis une quinzaine et souhaitaient quitter la région au plus tôt. Aucun impératif horaire ne l'obligeait à voyager tout de suite. La majeure partie du trajet de retour s'effectua de jour, ce qui lui permit de contempler les paysages tout à loisir. La motrice diesel progressait sur une voie unique. Le croisement avec son homologue montante se produisait dans la vallée. Un aiguillage manœuvré à la main la dirigeait sur une voie de garage. Pendant ce temps, la machine poussive tirait ses wagons vers les montagnes. L'ambiance était très différente. Deux femmes, un homme et deux enfants occupaient le compartiment avec lui. Les adultes papotaient, tandis que les deux gamines somnolaient. Elles respiraient là, en face de lui, l'une et l'autre souriaient. Ils rêvaient à leur contact en s'efforçant de ne pas fermer les yeux. Un orage s'abattit sur la campagne environnante. Il ferma ses paupières et les deux mômes s'habillèrent de blanc. Il secoua la tête, se leva et se dirigea vers le couloir. Il souffrait trop. Il arpenta le wagon durant un long moment, histoire de se changer les idées. Il constata que la mousson n'épargnait personne. Dans la plaine, il voyait les paysans se déplacer sur des routes surélevées avec du liquide à perte de vue. Le train avançait dans un paysage de désolation. Il évoluait tel un bateau ivre dérivant sur l'immensité de l'océan. Cette vision apocalyptique le perturba davantage. Il songea aux deux fillettes de ses rêves, perdu au milieu de nulle part. Il avait beau se secouer, cela l'obsédait dès qu'il rencontrait des jeunes enfants. Le convoi se déplaçait à vitesse réduite. Le conducteur appliquait les consignes scrupuleusement, car le ballast devenait instable face aux assauts répétés des éléments. Parfois, l'eau affleurait les rails, et l'avancée se réalisait en projetant des gerbes éclaboussant les ouvriers d'entretien. Ce spectacle insolite ne le rassurait pas. Il se demandait ce qui se passerait si une panne survenait à cet instant. Il n'en fut rien. La locomotive crachait, imperturbable, sa fumée noire. Les deux femmes et l'homme lui proposèrent de partager quelques reliefs de leur repas. Il avait faim et ne se fit pas prier. Il engloutit un morceau de poulet avec une boulette de riz gluant. Les gamines s'interrogeaient sur cet étranger qui ne leur ressemblait pas. Il avait le teint clair, ses yeux n'étaient pas bridés et ses cheveux ressemblaient aux poils d'un chat en colère. Elles échangeaient des regards complices en marmonnant des remarques qu'il ne comprit pas. Chacun de leurs sourires lui arrachait le cœur, mais il ne pouvait leur expliquer pourquoi. Une employée de la compagnie des chemins de fer passa pour proposer du thé. Il accepta bien volontiers le verre d'une propreté douteuse qu'elle lui tendit. Le breuvage provenait d'une bouilloire où les fumées s'étaient agglomérées au fil des trajets. Le calcaire obstruait le bec verseur. Un filet marron parvint cependant à se frayer un passage jusqu'au verre opaque. Il remercia la jeune femme de sa générosité et goûta la boisson. Elle était insipide. L'agitation gagna le compartiment. Les fillettes trouvaient longue la durée du périple. Il fallait les distraire. Les femmes chantèrent des comptines à tour de rôle. Fredonnèrent frère Jacques dans leur langue. C'était marrant. Il murmura avec elles, mais à la fin de la chanson, il sortit précipitamment dans le couloir afin d'essuyer ses larmes pour ne pas le montrer à ses voisines. Cette scénette lui rappelait un passé enfui à jamais. La nuit tombait lorsque le convoi s'immobilisa en gare. Il salua ses compagnons de voyage et attendit que tout le monde soit sur le quai pour descendre à son tour. Il vit, dans les buées des vapeurs d'eau, disparaître deux mômes en robe blanche. Un halo les enveloppa. Il se dirigea vers la sortie opposée. Il héla un cyclopousse et lui indiqua l'adresse de la pension où il avait séjourné avant de partir dans les montagnes.